Le peuple congolais est fatigué de la guerre qui sévit au nord et au sud Kivu. Tous à l'unanimité réclament la paix. Cette guerre qui est à la base de l'insécurité oblige les Kivusiens à devenir nomades et freine la relance économique dans cette partie de la RDC. Suivant ce reportage de Moïse Mutunga, rendu par Marcel Tanko.
Depuis plus d'une décennie, le nord et le sud Kivu sont devenus le ventre mou de la RDC. Les Kivusiens, obligés à devenir nomades par de ce qui peut être à la base de cette insécurité engendrée par la guerre et les conflits interethniques.
La guerre vient des rebelles qui nous traitent souvent des Hutus, des Nandé, etc. Bref, une sorte de tribalisme. C'est ce qui nous fait fuir et ce sont les militaires de Nkunda qui nous font croire cela. Je viens de Masisi. Je suis arrivé ici à pied à cause de la guerre avec Nkunda. Mes parents sont morts là-bas pendant ces affrontements militaires de Nkunda qui les pillaient, tuaient comme des animaux et violaient même des jeunes filles. La guerre vient de Laurent Nkunda. C'est lui qui nous fait manquer la paix. S'il n'était pas là, nous serions en paix. Nous sommes arrivés ici parce que nous étions en train de fuir les affrontements. Si ce n'était pas ces affrontements, nous ne serions pas arrivés ici. Ici, il n'y a rien. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous dormons dans des écoles, etc.
Et pour mettre fin à cette guerre, les Kivusiens proposent.
C'est l'État qui doit chercher à dialoguer avec les rebelles par tous les moyens pour trouver la paix, afin que nous puissions rentrer chez nous. Pour mettre fin à la guerre, nous ne sommes pas des politiciens pour savoir. C'est vous les politiciens, les hommes d'État qui devez chercher les rebelles et savoir ce qu'ils veulent afin que nous puissions rentrer chez nous. Nous voulons tous nous réunir sur une même table pour dire non à la guerre. Moi je pense que c'est parce qu'il y a trop de tribalisme, on nous traite des Burundais, des Rwandais, etc. Nous fuyons ces personnes dont nous ne savons pas d'où ils viennent. C'est au gouvernement qui doit trouver la paix, s'il veut s'entendre avec Nkunda ou avec qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est le retour de la paix dans notre pays. Nous avons beaucoup souffert. Ici, nous souffrons sérieusement. Nous sommes à la belle étoile. Nous n'avons même pas de bâches. Nous demandons seulement l'entente entre nous les Congolais, comme c'est le cas ailleurs dans notre pays. Je demande à ce que Dieu nous aide pour que nous puissions terminer cette guerre définitivement. Nous demandons que la paix revienne et que nous trouvions où habiter et que nous arrêtions de nous inquiéter où passer la nuit, que nous retrouvions la paix. La paix, c'est pour vivre dans l'unité entre nous les Congolais. Nous parlerons tous un même langage et nous ne pourrons jamais distinguer les tribus ni les territoires entre nous.
Voilà, un reportage signé chez Marcel Kankou. Nous revenons dans ce studio avec professeur Okumba. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel commentaire faites-vous après avoir suivi ce reportage?
Je suis content d'entendre l'auditeur esquisser un certain nombre de pistes et de solutions qui sont tout à fait positives. Par exemple, il estime qu'il faut dépasser le tribalisme. Et ça, c'est... Je pense que c'est une piste qui est tout à fait positive. Il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Et il considère également qu'il faut s'asseoir autour d'une table pour parler, pour trouver des solutions. C'est une deuxième piste que je considère comme tout à fait pertinente. Mais il dit également que les politiciens doivent trouver des solutions. Effectivement, les acteurs politiques qui gèrent la société doivent pouvoir se mettre ensemble et construire des solutions pertinentes pour l'ensemble de la société et plus particulièrement pour cette partie du pays qui est traumatisée par les violences.
Donc on peut conclure que ces réactions sont vraiment normales.
Ce sont des réactions normales, ce sont des pistes et des solutions qu'il faut retenir et je considère que ce sont des réactions tout à fait normales.
Alors quelles sont les raisons de l'insécurité au Nord Kivu et dans les autres provinces? Parce qu'on remarque de plus en plus un cycle de violence.
Je crois qu'à l'origine de l'insécurité au Nord Kivu et dans certaines autres provinces, il y a des conflits interethniques. qui sont causés principalement par des conflits fonciers, des conflits des terres, des conflits des intérêts économiques. Et donc, ce sont ces conflits mal résolus qui, dans certains cas, donnent naissance à des groupes armés et par ricochet à l'insécurité.
On aimerait un peu savoir, professeur, comment réagit-on lorsque nous vivons dans l'insécurité? Que fait-on? Que pense-t-on? Parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
C'est vrai. Quand on vit dans l'insécurité, la première réaction qu'elle en a, c'est celle de la peur. La peur. Ceux qui n'ont jamais été victimes de la violence de groupe, ils éprouvent la peur de subir la violence que les autres ont connue. Par contre, ceux qui ont déjà été victimes de la violence, ils éprouvent également la peur. Ils pensent que les mêmes événements de violence vont s'abattre sur eux. Donc, la première réaction, c'est une réaction normale dans des contextes d'insécurité, c'est la peur. Alors, que fait-on d'une manière générale dans ces genres de situations, les gens qui affrontent les mêmes problèmes, qui partagent les mêmes problèmes, ils se regroupent, ils se rassemblent pour se sentir un peu en sécurité, pour se sentir un peu plus fort, mais également pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Bon, maintenant, que pensent-ils? Quand les gens sont dans l'insécurité, très souvent, ils identifient les autres groupes comme étant à l'origine de leur situation. Ils diabolisent les autres parce qu'il est beaucoup plus facile d'accuser, de diaboliser les autres que de faire un effort d'analyse et de réflexion pour essayer de découvrir les véritables causes ou la véritable nature du problème. Donc, très souvent, on réfléchit en indiquant les autres comme étant à l'origine de la situation.
Donc, des boucs émissaires.
Alors que si on fait un petit effort de réflexion qui est à la portée de tout le monde, on va découvrir qu'en fait, les autres ne sont pas nécessairement à l'origine de la situation et que les causes sont ailleurs.
Les causes sont ailleurs. Pourquoi des groupes alors s'accusent d'être responsables de la sécurité?
Vous savez, dans les périodes de troubles, je veux dire les périodes de guerre, de crise et de conflits, il y a souvent un déficit d'information. Regardez, dans toutes ces périodes, en général, il y a un véritable déficit d'information. Parce que dans les zones de conflit, les médias ne sont pas opérationnels. Les gens n'ont accès ni à la radio, ni à la télévision, ni à la presse. Ce qui fait qu'ils partagent des rumeurs. Ils partagent des fausses informations. Et donc, les divers groupes s'entraccusent très souvent sur la base des rumeurs et des fausses informations. C'est ça le problème.
Est-ce vrai que la sécurité puisse bénéficier à certains leaders? Est-ce que vous pouvez nous en faire une idée? Comment?
C'est vrai que l'insécurité peut effectivement bénéficier à certains leaders, et on le voit effectivement, elle bénéficie à certains leaders. Cela arrive quand les membres des différents groupes se laissent manipuler par ces leaders. Qu'est-ce qui se passe? Ces leaders les invitent à s'allier à eux, en leur disant, bon, ils défendent leur cause, ils sont là pour les protéger. Alors, ils font tout pour que les membres de ces groupes s'allient à eux. Ils les arment. Et puis, ils leur ordonnent de poser des actes qui sont nuisibles, des actes de violence. Et dans la foulée, ces leaders en profitent pour éliminer des opposants, pour éliminer des adversaires politiques. Et par le fait même, ils renforcent leur position et leur pouvoir. Voilà comment, en fait, ils bénéficient de l'insécurité.
Et expliquez comment les leaders exploitent les conflits existants et les traumas qui en découlent pour manipuler les victimes de ces violences.
Comme je disais, dans les périodes de conflits, nous sommes tous traumatisés. On a peur. On a peur parce qu'on est traumatisé par les expériences de violences que nous avons connues, soit directement, soit indirectement. Et on est habité par la peur de voir les mêmes événements s'abattre sur nous. Et dans ces conditions, on est très vulnérable. Quand on a peur, on est vulnérable. Et les leaders se servent en fait de cette peur, de ces blessures mentales, que nous avons, nous, ils en profitent pour soulever notre haine contre leurs ennemis. Alors, ils disent, voilà, mais ce sont eux qui sont à l'origine de la situation, ce sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs, et donc ces gens-là, il ne faut pas les accepter, il faut les chasser, il faut les éliminer. C'est de cette façon-là qu'ils exploitent les traumatismes, les blessures mentales pour réactiver des haines, exploiter ces haines, utiliser, instrumentaliser ces haines pour que les gens puissent s'allier à eux, s'armer, commettre des actes de violence contre des groupes considérés.
Juste une question de curiosité, est-ce que la cohabitation entre ces deux groupes ennemis peut-elle être encore possible?
Non.
Quand nous avons déjà des leaders qui inoculent, disons, aux membres du groupe, déjà des stéréotypes à pouvoir diaboliser les autres.
La cohabitation est possible et il faut la favoriser. Il faut travailler pour que cette cohabitation puisse se réaliser. Et cette cohabitation peut se réaliser par la communication. Il faut que les gens apprennent à se parler, à se connaître, à échanger, à entrer dans des projets communs, à réaliser des activités communes,
des vérités.
Se dire des vérités, effectivement, mais au départ, le point de départ, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tant qu'on n'a pas compris les causes véritables de la crise, la nature véritable de la crise, c'est difficile de trouver
les choses. Chacun va tirer les drapeaux.
Oui, non, on va continuer à entretenir des préjugés, on va continuer à accuser les autres parce qu'on n'a pas découvert les véritables causes du problème. Et une fois que l'on a fait cette forme de compréhension, en ce moment-là, on va découvrir, tiens, mais l'autre n'est pas à l'origine de ce problème, il est innocent. Il y est pour rien.
Il est mon semblable.
Voilà, il est mon semblable. Et alors, on peut partager. Mm-hmm. Donc, il y a un premier effort de compréhension de la nature véritable des formes et des causes réelles. Et ensuite, il y a un effort de communication. Un effort de communication qui doit être suivi également par le partage des activités.
Est-ce que cet effort de compréhension peut-il être possible lorsque quelqu'un est psychologiquement affecté par l'insécurité? Parce que nous nous posons la question, quand quelqu'un est affecté par l'insécurité, il agit un peu d'une manière brutale.
Oui, mais je me répète un peu en disant que c'est vrai, en période d'insécurité, nous, on a peur, mais malgré cette peur, on peut construire des réactions constructives. Et il faut construire des réactions constructives. Et chacun peut faire un effort pour construire des réactions constructives. Et je le résume en quelques points. Le premier point, à mon avis, c'est que il faut rejeter les appels à la violence et les discours manipulateurs. Et ça, n'importe qui peut le faire. Et il faut rejeter les discours du genre agression interne parce qu'il est à l'origine de nos malheurs, faisons ceci parce que c'est ce groupe qui est à l'origine de la situation. Il faut rejeter ces discours, il faut rejeter les discours manipulateurs. Il faut rester solidaire et s'entraider à comprendre les causes derrière la véritable nature du problème. Ça, c'est la première réaction constructive. Deuxième réaction constructive, il faut aider les personnes qui sont les plus affectées, les plus traumatisées, en parlant avec elles. Il faut discuter avec ces personnes, il faut les écouter, et puis il faut leur expliquer qu'il existe plusieurs types de menaces. Il y a des menaces qui sont réelles, mais il y a des menaces que l'on s'invente, plus ou moins psychologiquement.
Il y a une réaction d'un auditeur, j'aimerais bien qu'on dise ça. Il y a un auditeur qui malheureusement n'a pas cité son nom. Il dit, le problème est que ici, en RDC, le tribalisme est devenu une arme politique. Il n'y a jamais eu de tribalisme en soi. Donc en réalité, il n'y a pas de tribalisme. Mais c'est devenu une arme politique. Comment voyez-vous cette opinion?
Non, c'est exact. Je dis, les tribus existent. Les ethnies existent, ça on ne peut pas les nier, mais ces tribus, ce sont des valeurs, ce sont des potentialités que l'on doit mettre ensemble. Et les différences, c'est constituent une richesse. Un monde qui serait un monde homogène ne serait pas un monde très productif. il faut être différent pour s'apporter mutuellement quelque chose. Donc je considère que les tribus existent et les tribus ont des valeurs. Malheureusement, ces différences sont instrumentalisées effectivement par des acteurs.
Oui, ben,
elles avaient déjà été instrumentalisées par les colonisateurs, et on continue à les instrumentaliser. Mais au contraire, c'est plutôt des éléments positifs.
Oui, mais comment expliquez-vous que différentes personnes répondent différemment à l'insécurité?
Mais il y a deux choses. En fait, nous réagissons différemment à l'insécurité à cause de notre histoire personnelle et familiale. Nous n'avons pas la même histoire, la même trajectoire la même trajectoire psychologique, intellectuelle et familiale. Donc, forcément, nous réagissons plus ou moins de manière différente en fonction des éléments constitutifs de nos personnalités.
Alors,
mais il y a également le rôle de chacun dans les événements. Vous savez que quand il y a des événements de violence, vous avez les bourreaux, vous avez les témoins, vous avez les victimes. Donc, en fonction des rôles que nous avons dans les événements, nous réagissons de manière...
Voilà, on va revenir pour avant de conclure, mais on va d'abord prendre la réflexion de Marcel Kankou en conclusion.
Lorsque nous vivons dans l'insécurité causée par la guerre ou les conflits interethniques, n'avons pas la paix du cœur, nous sommes affectés mentalement par cette insécurité. Nous avons peur pour notre survie, celle de notre famille. Nous pouvons même croire que nous sommes inférieurs aux autres car on cherche à nous faire du mal. Nous ne comprenons pas les événements violents qui se passent autour de nous. Or, c'est un besoin vital de l'homme de se sentir en sécurité. Il est tout aussi vital pour l'homme d'être en sécurité que de manger. Dans des périodes de conflit, nous sommes tous traumatisés par les expériences violentes que nous avons vécues de près ou de loin. Nous avons peur que les mêmes événements recommencent et que l'on souffre encore. Des leaders se servent de nos blessures pour soulever notre haine contre leurs ennemis. Ils disent que c'est eux qui nous ont blessés et que nous ne pouvons plus accepter que cela vive à nos côtés. Les auteurs de ces discours sont des manipulateurs qui cherchent à nous faire adhérer à leurs idéologies de la destruction. Plutôt que de céder aveuglément à ces discours qui appellent à la violence, nous devons rester solidaires et nous entraider car l'insécurité nous affecte tous, quelles que soient nos appartenances ethniques. Nous devons aider ceux qui sont affaiblis par leurs blessures mentales et par l'insécurité. Nous pouvons les aider à mieux vivre en parlant avec eux, en les écoutant, en leur expliquant que l'insécurité affecte tous les groupes et que ce n'est pas la machette qui ramènera la paix et la sécurité, ni les êtres chers perdus. Au contraire, la violence nous rendra auteurs de crimes. Enfin, nous devons intégrer les personnes qui souffrent moralement dans nos activités de tous les jours, en les invitant dans notre travail et dans nos activités sportives ou dans nos prières. Ainsi, ils comprendront que nous leur tendons la main et que la vie peut continuer plus ou moins normalement et qu'il ne faut pas se laisser hanter par les fantômes du passé, mais regarder devant. Pour terminer, gardons à l'esprit que si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien. Si tu possèdes peu, donne ton cœur.
Voilà, merci Marcel Kankou. Professeur, on va conclure également avec vous. Comment les civils peuvent-ils résister de manière constructive, parce que vous avez parlé tout à l'heure des réactions constructives, à la manipulation en période d'insécurité?
Alors, pour résister de manière constructive à la manipulation en période d'insécurité, deux choses. D'abord, s'entraider à comprendre les causes réelles et la véritable nature du problème. Mais d'autre part, il faut disséminer l'information sur la compréhension des événements, pour partager avec les autres les causes réelles du problème et la véritable nature du problème. Donc, comprendre, mais en même temps, disséminer l'information sur cette compréhension.
Donc, les civils peuvent être solidaires face à l'insécurité, c'est possible?
Et ils doivent être solidaires, et ils doivent s'entraider à comprendre et s'entraider également à diffuser l'information. Et là, la presse a un rôle extrêmement important. Puiser les faits, porter les faits à la connaissance du public, parce que la meilleure façon de combattre les préjugés, la meilleure façon de combattre les rumeurs et les fausses informations, c'est d'amener les faits à la connaissance du public.
Alors pourquoi cela est important pour tous les individus et groupes de notre pays?
Cela est important parce que le développement n'est pas possible s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de coexistence pacifique entre les différentes composantes de la société. Et tout à l'heure, je disais que Mais je réponds à une sous-question. Les civils peuvent être solidaires, mais comment peuvent être solidaires? Peuvent-ils être solidaires? Ils peuvent faire pression sur les leaders politiques. Ils peuvent faire pression sur toutes les couches de la société pour que la paix soit restaurée. Et il existe des moyens de faire pression. Il y a la rédaction des pétitions, par exemple, les déclarations dans les médias, des marches et des manifestations pacifiques, des prières, le refus des ordres des leaders qui appellent à l'hostilité et à la violence. Donc, il existe toute une gamme de moyens.
Encore faut-il que ces décideurs ne fassent pas sourd oreille.
Non, mais à force de répéter, à force de marcher, de répéter, de dire la même chose, les gens finissent par entendre. Et surtout, si ce que les civils disent, ce que la population dit est relayé par les médias. Et si les médias relaient les déclarations qui sont faites par la population, les vœux de la population, les acteurs politiques finissent nécessairement par entendre et par en tenir compte.
Donc les médias ont un grand rôle à jouer, et surtout en temps d'insécurité, de guerre ou des conflits internes et ethniques.
Et surtout à ce moment où il y a une conférence sur la paix au nord du Congo, les médias ont un rôle extrêmement important de faire une analyse objective des causes réelles de l'insécurité et de la diffusion de l'information sur ces causes.
Professeur Okumba, Paul, vous êtes professeur à l'IFASIC. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui dans cette chronique La Benevolentia. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines avec vous.
Merci beaucoup et bonne année à tous les auditeurs et à vous-même.
Voilà, c'est bien, qui finit bien, Nicole, c'est par ici que nous bouclons la boucle de notre émission. La balade à travers le pays, on s'arrête là. Nous prenons rendez-vous avec nos auditeurs demain, mais on ne peut pas se quitter sans pour autant leur dire merci de nous avoir accompagnés depuis 9h.
Tout à fait, JR. Oui, on dit merci à tous nos auditeurs, ainsi qu'à ceux qui nous ont assistés, notamment à Sylvain Baogueré qui était à la mise en onde, à Timapoukou à la réalisation, sans oublier Nuno Ngoy qui a coordonné cette émission. On se retrouve donc demain, c'est-à-dire de 9h à 12h, heure de Kinshasa. Merci encore et à demain.